Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a la Castafiore, Carmen et Molière qui jouent les animateurs de quartier en CDD de l'autre côté du périph. La diva aux bijoux, la bohémienne aux pieds nus et le comédien la perruque font un carton auprès des jeunes sans casquette. Les tartuffes cyniques contre les rois feignants, c'est la nouvelle comédia dell'arte virale. 50 millions de vues sur YouTube pour Molière. Dans tes rêves, il y a plus de chiffres, plus de pourcentages, plus d'algorithmes. Les enquêtes oniriques ont remplacé les instituts de sondage. Le pouvoir est enfin connecté aux rêves des vrais gens et il te plaît plutôt bien ce nouveau monde du marche et rêve. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Très heureuse de vous retrouver pour cette rêve partie anti-blues du dimanche soir, car on a encore le droit de rêver, même si demain c'est lundi. Une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée. Ma première est cantatrice, mezzo-soprano. On la surnomme la diva des cités. Elle enseigne l'opéra de l'autre côté du périph, justement pour écouter la voix de tous ceux qui n'ont pas toujours forcément l'habitude d'être écoutés. Bonjour, bonsoir, Malika Bellaribi-Lemoyle.
Bonsoir.
Il vous plaît mon rêve avec la Castafiore, Molière et Carmen ?
Oui, je trouve
Carmen.
Sympa. C'est comme c'est l'opéra, c'est du théâtre chanté, ça me va bien. On travaille avec les gens du théâtre aussi.
Vous préférez plutôt Carmen à la Castafiore aux bijoux bling bling, vous, non ?
Ouais, je préfère Carmen, ouais, quand même. Oui, la bling bling, oui, ça c'est clair.
Dit-elle. Mon second est dramaturge, romancier, c'est aussi un enquêteur onirique, un récolteur des rêves des autres, des gens de tous les jours. À la crête des vagues, c'est son dernier roman chez l'Arpenteur. Bonjour, bonsoir, Lancelot Hamelin.
Bonsoir.
Enquêteur onirique. Pour le coup, ça existe pour de vrai. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein.
Oui, c'est une façon de parler de ce qu'on essaye de faire, des enquêtes oniriques, des enquêtes sur les événements qui arrivent dans cette part de la vie qu'on vit quand on rêve.
Et Lancelot va dans les quartiers du côté de Nanterre, notamment, on en reparlera, pour demander aux gens quels sont leurs rêves, hein, les rêves à partager. C'est votre première rencontre dans la vraie vie, mais
oui.
Quelque chose me dit qu'il y aura, à mon avis, des atomes crochus. L'un et l'autre, un imaginaire un peu hors cadre, hors chapelle. La cantatrice a autant besoin de la cité que de l'opéra, de ses dorures, comme le romancier a autant besoin du théâtre que de la rue, pour éviter d'être hors sol.
Bah, c'est sûr que je pense que quand on est dans la voix, dans s'exprimer, il y a toute une partie inconsciente de notre rêve. Notre voix sort des couleurs, sort tout ce qu'on ne dit pas. Et ça, c'est important dans le chant lyrique et parce que c'est à la fois des drames de la vie, mais c'est à la fois des joies. Et on peut être force créatrice par rapport à son souffle. Mmh. Et c'est ce qui nous donne une voix unique pour chaque personne. Et c'est ça la richesse intérieure.
Le romancier a aussi besoin, Lancelot Hamelin, de la fiction du réel.
Oui, moi j'ai l'impression d'écrire sur le réel. Donc effectivement, j'ai besoin d'aller à sa rencontre. Parce que peut-être que le réel, c'est ce qu'il y a de plus dur à rencontrer. On croit qu'on vit dans la réalité au quotidien, mais la plupart du temps, on vit plutôt comme des somnambules en faisant des choses mécaniques. Et intensifier le rapport qu'on a au réel, c'est-à-dire aiguiser son être attentif à ce qui arrive, c'est peut-être à ça que me sert l'écriture. Plus qu'à écrire des livres, les livres, c'est la conséquence d'une pratique qui consiste à être attentif aux choses. Parce que j'aurais tendance à ne pas l'être. Donc c'est peut-être, voilà, il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de cet effort-là.
Rêver, c'est le thème du festival Monde, qui a lieu du 22 au 25 septembre. D'ailleurs, vous, Lancelot Hamelin, vous y participerez dimanche prochain à l'Opéra Bastille. Vous croyez, vous, au pouvoir onirique ?
Dit comme ça, je ne sais pas comment répondre, mais que les rêves ont un rapport avec le pouvoir, avec l'agir, avec, et ont une puissance, oui.
Je pense que, en fait, la société fait croire à certains qu'on vit sa vie en rêve. Mmh. C'est pas la réalité. Et évidemment, quand on vit sa vie en rêve, on n'agit pas. Mais moi, je pense que le rêve a un pouvoir. Il permet de se transcender, de pouvoir se dépasser. Et je pense que quand on chante, on a une forme de rêve. On peut toujours rêver de la voix qu'on a envie d'avoir. Quand on accepte l'inattendu, alors souvent ce qui se passe, c'est que la voix est beaucoup plus belle que ce qu'on fantasmait. Et ça, pour moi, le rêve est important parce qu'il est moteur. Et si on n'a pas des rêves, alors ben on vit plus, on n'a plus d'espoir. Et le chant, c'est ça, c'est en permanence. Et chaque personne qui donne un son envoie son rêve, mais non verbal.
C'est ça. Ça vous a pas échappé, on est dimanche, encore pour quelques minutes. Alors, le fameux jour que certains attendent ou redoutent, peut-être des souvenirs aussi de messe obligatoire en pantacourt ou des souvenirs de jogging en train de savate pour tenter d'éliminer le gin tonic de la veille. Il y a aussi l'histoire du dimanche avec le cartable chez papa, la brosse à dents chez maman, voilà, le chassé-croisé dominical dans la famille récorée, recomposée. Et pour d'autres, c'est le cauchemar, on parle des rêves, mais il y a les cauchemars aussi, du square et du bac à sable où il semble assez loin, nos fameux rêves de château en Espagne.
Quand je vais au parc, justement, pour enfants, avec ma fille au square, eh bien, je vois de plus en plus de papas. C'est bien, félicitations, messieurs, bravo. Vous avez vu, on se fait chier. Hein. Alors, au parc, bon, bah, vous l'aurez compris, on est tous égaux devant l'ennui. Hein. Hommes ou femmes, on erre comme des zombies, comme ça, entre les manèges. Puis c'est passé trop vite, enfin hier j'avais 20 ans, j'étais bourré en boîte, je me souviens, je dansais sur Imagination avec mon pantalon à pince. It's just an illusion. Oh, le parc c'est le cimetière de ta jeunesse. Comment dire, c'est le parc pour enfants, c'est la prison pour adultes. Oh mon Dieu, 3 enfants, 30 ans ferme, courage.
Oh. Excellente Florence Foresti. Non mais franchement, c'est vrai que c'est un peu, c'est carrément un cafard, le square des poussettes, non? Qu'en pense
une sorte de vision de l'enfer.
Hein, c'est ça, l'écrivain et la cantatrice, non?
Moi, je ne vois pas comme ça.
Ouais.
Moi, je trouve que, alors, moi, je me dis, le cauchemar, c'est ce qui nous fait grandir. Il faut passer au bazar, aux crises, et on est obligé de se dépasser. C'est pas mal le bac à sable. Moi, c'est pas mal.
Le blues du dimanche soir, vous connaissez l'un et l'autre, il y a un rituel où se passent vos dimanches justement pour échapper au réel du lendemain, parce qu'on parle de réel aussi dans ce Wemelin.
Oui, quand il y a des trucs à faire le lundi matin, c'est vrai que le dimanche soir est dur. J'essaye d'éviter d'avoir des choses à faire le lundi matin et
c'est ça, la
j'ai
solution.
La chance de pouvoir souvent organiser mon temps comme ça. Donc c'est la solution, c'est de projeter le dimanche au lundi matin.
Page vierge dans l'agenda du lundi matin alors.
Voilà. Autant que possible.
C'est peut-être une solution, Malika Bellaribi-Lemoyle.
Moi, je fais pas ça du tout. Moi, je profite de mon dimanche jusqu'au bout. Et quand j'ai bien bullé, que j'ai bien décompressé, j'ai plus d'énergie le matin. Mais je pense que ça dépend des gens. On a tous un rythme singulier. Donc voilà, moi j'ai trouvé le mien.
Mais la voix, vous la mettez un peu au repos, non? Ou pas le dimanche Elle a besoin d'un jour chômé aussi, la voix?
Bien sûr.
Quand même.
Oui, ben oui, parce que c'est quand même un travail comme un sportif. Non. Oui, de temps en temps, il faut
le lâcher. Muscle au repos.
Oui.
Voilà pour cette rencontre jusqu'à minuit. N'hésitez pas vous aussi à poster vos songes sur notre page Facebook Dans tes rêves et bien sûr le site franceinter.fr. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, donc avec le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquet, la réalisation, Nadia Chougui pour la préparation, Muriel Pérez à la programmation et ce soir à la technique, Alice Berger. Que des filles belles, soirée. You sing your swan song to the dogs. C'est Beck sur France Inter et ce soir nous sommes dans les rêves de la cantatrice Malika Bellaribi Le Moine, la diva des cités et l'auteur dramaturge Lancelot Hamelin.
Quand j'étais gosse, j'aimais l'odeur du pain grillé le matin, du plastique à recouvrir les livres à la rentrée et puis les petits pots de colle blanche à l'école.
Laurence Garcia.
Alors, comme à chaque fois, on explore l'imaginaire de l'enfance de nos deux invités. Je vais commencer par vous, Malika Bellaribi Le Moine. Cette enfance, vous l'avez racontée il y a quelque temps déjà dans votre bio Les Sandales Blanches. Vous êtes née dans les bidonvilles de Nanterre à l'époque. On surnommait même ces cités, ces baraques, la folie.
Oui, il y avait le bidonville de la folie. Bon, il y avait celui des pâquerettes. Et puis, il y avait celui du pont de Rouen.
Et vous, c'est la folie.
Oui, c'est à côté de la folie.
En pleine guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez des images, des souvenirs un peu flous ou lointains de ces baraques, de ces installations? Il y avait des milliers de travailleurs.
Non, ça par contre, pour moi, c'est net. Oui. Parce qu'on allait faire les courses, il y avait une espèce d'économie qui était qu'on allait faire les courses au bidonville. Il faut dire que mon père avait une épicerie dans le bidonville des pâquerettes. Aux pâquerettes, ils avaient même réussi, je crois, à faire un hammam pour les femmes. Donc c'est quand même, comme souvent, les gens travaillaient pour le bâtiment et c'était très débrouillard. Et puis, moi, j'ai plutôt un souvenir sympa. Je l'ai toujours dit. Parce qu'il y avait une grande solidarité. On se débrouillait avec des riens. On jouait avec les casseroles, les boîtes de conserve. Il y avait de l'amour. Voilà. Donc, pour moi, je me souviens aussi surtout des braseros.
Des braseros.
C'est ça, comme ça. C'est ma dyslexie. C'est bien ça? Merci. Parce qu'ils faisaient à manger. Et puis, il y avait aussi les murs qui étaient montés avec soit des briques ou, parce qu'ils ramenaient des chantiers. Et puis, ils avaient de la tôle. En fer, voilà. C'est vraiment des souvenirs comme ça. Donc, et puis quand on rentrait dedans, c'était très bas. Et alors le sol. Alors quand ils avaient les moyens, ils mettaient du ciment s'ils pouvaient. S'il y en avait qui n'avaient pas, ben ils trouvaient un autre système. Et je me souviens, ils arrivaient à mettre des tapis.
C'est dingue.
Il y avait vraiment quelque chose de très sympa. Et comme il y avait beaucoup de moutons, mon père avait ses moutons au pont de Rouen. Il en avait 50. Souvent, les femmes, quand on tuait le mouton, récupéraient les peaux de mouton. On appelait ça des hedora. Et on en faisait des, on dormait dessus. Voilà. J'ai pas un souvenir négatif.
Ça semble assez surréaliste aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres bidonvilles qui se reconstruisent maintenant. Oui. Lancelot Hamelin, une petite intervention, parce que vous êtes né à Lyon. Je vous vois regarder Malika avec attention. Vous avez toujours été fasciné par Nanterre, vous.
Oui,
par
oui,
cette c'est, ville de résistance, par au-delà des bidonvilles ou du berceau de mai 68, c'est quoi c'est,
Je sais pas, c'est une sorte de tropisme. C'est-à-dire le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Le couvre-feu d'octobre, qui réfère au couvre-feu d'octobre 61, se passe pour un tiers dans les bidonvilles de Nanterre, que moi j'ai pas connu, et donc j'ai fait un lieu un peu mythique dans le roman. Et puis quand donc c'est un roman qui est sorti en 2012 et quand je me suis mis à travailler sur les rêves, je cherchais un territoire où inscrire mon enquête pour pas me perdre dans toute la France ou le monde entier et j'ai choisi Nanterre. Je sais pas, c'est le mot Nanterre qui fait prendre, je sais pas, qui sonne comme Nanterre ou qui a quelque chose d'un peu mythique. Et là maintenant je commence à bien connaître la ville et là on l'arpente en fait avec des groupes de chasseurs de rêves, de collecteurs de rêves et dans tous les sens. Carte en main pour demander aux gens de quoi ils rêvent la nuit, quels sont leurs cauchemars.
Pour revenir au rêve de gamine de Malika Bellaribi Le Moine, il y a le décor des bidonvilles de Nanterre, mais pas que, parce que finalement vous avez passé énormément de temps, d'années, dans d'autres lieux, puisque vous avez eu un grave accident.
Oui.
Voilà, vous aviez quoi, 4-5 ans,
ans, 3 ans, ans.
Donc à Camion, vous...
Moi, vers ça, en face de pas très loin de l'hôpital, dans ce qu'on appelle l'avenue de la République, vers les Pâquerettes, vers le 4 chemins. Mais c'est pour rejoindre ce qui parle de la guerre d'Algérie, mais en même temps, c'est très intéressant, parce que mon père était collecteur au FLN, et il était au bidonville. Hein, donc mon père est quand même mort de la guerre d'Algérie en France. Par contre, le côté positif de mon père, c'est qu'il avait décidé que ce soit les religieuses qui s'occupent de moi, puisqu'à l'hôpital de Nanterre, à l'époque, il y avait des religieuses. Et c'est comme ça que j'ai passé mon enfance dans les hôpitaux, les maisons de repos. Et malheureusement, je l'ai perdu quand j'avais 6 ans. Et grâce à lui, quelque part, il m'a un peu protégée, c'est moche à dire, hein, du racisme.
Mmh. D'autres images fortes pour la petite Malika, donc qui portait des sandales blanches dans cet hôpital avec ses sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Elle allait à la chapelle et elle entendait ces voix-là. La Veveroum de Mozart, dirigée par de William Christie. Vous les appelez vos voix d'ange. Ce sont ces voix-là qui vous ont sauvé, qui vous ont...
Parce qu'un enfant, quand il est bloqué, enfin qu'il est immobile dans un lit, heureusement, j'avais ces femmes qui me permettaient d'entendre la musique. Et puis les livres aussi, les livres pour enfants, les trucs de cubes. Parce que chez nous, les contes de fées et cubes, faut pas rêver, hein, y en avait pas. Même pas ce que c'était les livres, parce qu'ils étaient dans la survie.
Ouais,
donc
ouais.
Il faut quand même redire les choses. Mais c'est vrai que le fait que j'entendais ces voix chanter, puis quand elles m'emmenaient à la chapelle sur mon lit d'hôpital, ou après, quand j'étais dans les maisons de repos, c'était une certaine manière pour moi comme si je marchais, je volais. Donc ça m'a donné la force de me battre et de marcher.
Malika, ça veut dire reine, hein, quand même, en arabe. Hein.
Oui.
Et en même temps, on se bricole. On est à la fois catholique d'adoption, musulmane. On se bricole aussi ces petites étoiles.
C'est sûr que moi, comme à chaque opération, je ne savais pas si j'allais vivre ou pas. Ça, c'est ce que je dis toujours. Donc moi, avec Marie et Jésus, mes parents n'étaient pas là. Mon père est mort. Donc ça a continué, les opérations. Ça a quand même été pendant pas mal d'années. Parce qu'on ne savait pas si j'allais récupérer le bassin, les jambes, enfin tout ça. Et c'est vrai que ma mère n'avait pas le temps avec une famille de 8-9 enfants, donc faut les nourrir. Elle n'avait pas le temps de venir à l'hôpital. Donc faut dire que quand même que j'ai vécu un peu l'abandon quand même. Donc heureusement que il y avait. En fait, ils avaient remplacé mes parents.
Ouais, c'est ça.
Les enfants, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent, dire.
Donc. Autre décor d'enfance, hein, je le disais, Lancelot Hamelin, vous êtes né à Lyon. C'est vrai que vous dites que vous avez appris à observer le monde des grands, le réel, justement, dans le bistrot de vos parents.
Oui, alors, non, c'est un raccourci. En fait, quand j'étais enfant, mes parents n'avaient pas le bistrot. Donc, j'ai appris à observer le monde enfant. J'ai beaucoup été à l'hôpital. Effectivement, libère de beaucoup de préoccupations inutiles, comme par exemple jouer au foot ou jouer avec les autres.
Inutile, hein.
Voilà, donc on lit des livres et on essaie de passer le temps en écrivant des choses. Après, on regrette un peu de mal jouer au foot.
Mais, c'est pas grave.
Voilà, non, le bar est venu aussi assez vite dans ma formation, mais effectivement, peut-être l'hôpital, pas mal.
Les univers bonne clos école. Et l'imaginaire, justement, pour s'en échapper. Peut-être que ces mots-là, ces brèves de comptoir, vont rappeler quand même quelques souvenirs au fils de bistrotier.
T'es bien rentré hier soir ?
Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré.
La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un œil.
Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main.
Oh, ça, c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Bravo et vive le bistrot français!
Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas.
T'es bourré?
extrait du film de Jean-Michel Ribes, d'après d'ailleurs les vrais brèves de comptoir que collectait Jean-Marie Gouriot, comme vous, vous collectez d'ailleurs les rêves des autres, on en parlera tout à l'heure. Il y a tout dans ces mots-là, alors je ne sais pas si le gamin entendait ce genre de choses, mais il y a de l'absurde, de la poésie, de la philo, de comptoir.
Une humanité à vif, et puis il y a une relation au langage qui est très très forte, mais qui est très violente, c'est-à-dire, là c'est l'aspect rigolo, mais ce qu'on vit dans un bar, mes parents étaient dans un bar de campagne, dans une région un peu sinistrée, c'est beaucoup de violence envers soi-même et envers les femmes, ma mère derrière le comptoir, c'était quelque chose. Le langage du bar est marrant, par exemple pour les whisky, on parle d'un baby, mais aussi on parle d'une couille, parce qu'un baby c'est deux doses, et puis une demi-dose je crois, je sais pas, c'est un fœtus.
Hein,
donc le langage de la et puis après il y a des mitraillettes quand on fait une série de pastis.
Oui, c'est très guerrier en fait.
C'est très guerrier, guerrier sexuel et voilà et l'amoresque aussi.
Hein. Ouais.
L'amoresque. Le langage donc il y a une concentration de langage et effectivement c'est comme dans les rêves, c'est du langage très imagé.
C'est ça.
Et très qui prend aux tripes de l'être.
C'est vrai que à vos débuts jeune acteur, vous aviez une troupe hein et vous alliez vous produire dans les bars et dans les auberges
de jeunes travailleurs. Oui.
En disant que le comédien c'est un jeune travailleur comme un autre aussi.
Ah, vous avez trouvé ça peut-être.
Aha,
ah oui. Oui. Ah, les journalistes. oui, donc j'ai commencé en fait à faire du théâtre avec une compagnie qui s'appelle le Tas du Grabuge qui continue d'exister, qui est tenue par Géraldine Benichoux et Sylvain Bolreda qui est un comédien très central, et effectivement au début de notre travail, on n'avait pas accès au théâtre, au milieu théâtral parce qu'on faisait pas d'école. Et puis on avait une idée du travailleur comédien assez social, assez engagé, et donc l'idée c'était d'aller, puisque certaines personnes ne vont pas au théâtre, c'était d'aller là où les gens sont, donc les bars et les foyers de jeunes travailleurs. Effectivement, il y avait cette idée de partager un petit peu un quotidien de travailleurs. C'était une idée comme ça, une belle idée. Et on a fait ça assez longtemps. Et on écrivait aussi pour ce contexte, c'est-à-dire qu'il fallait penser une écriture qui puisse respirer avec l'ambiance du bar, qui a un rythme particulier. On peut pas imposer certaines temporalités aux gens dans un bar.
C'est clair. Partagez vos rêves et vos utopies, on en parle dans quelques instants.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver. En été, tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré, c'est l'hiver. En été. La nuit blanche pourrait durer
C'est l'hiver en été, sont les flocons de l'été avec Étienne Dao sur France Inter.
Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane.
France Inter.
Où êtes-vous en ce moment?
Dans tes rêves.
On est en train de rêver?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagée. Gardez votre calme.
Laurence Garcia.
Et nos deux invités ce soir, la cantatrice Malika Bellaribi-Lemoyle et le dramaturge auteur Lancelot Hamelin. L'un comme l'autre, quelque part, vous êtes aussi dans le partage de ces rêves de tout est possible, d'anti-fatalité. Alors l'une, en faisant jouer, en faisant chanter les femmes, les jeunes des quartiers, en utilisant quand même un art élitiste, l'opéra. L'autre, on en reparlera en sondant, en écoutant les non-dits et les rêves des vrais gens, des habitants de Nanterre. Cette transmission, Malika, vous dites souvent, c'est pour ne pas oublier d'où je viens aussi.
En fait, pour moi, j'ai eu la chance, enfin c'est ce que je vis les choses comme ça, on m'a donné, j'avais envie de redonner, ça c'était la première chose. La deuxième chose, pourquoi j'ai fait ces projets, en fait au début quand j'ai commencé, c'était pour lutter contre le racisme. Vraiment le racisme social, et aussi bien pour les Maghrébins que pour les Français, il y avait, tout le monde était, on avait perdu ce que j'appelle notre humanité. Et je pense qu'on fait partie tous, on est une espèce humaine. Après, il y a une culture, il y a les différentes régions, ben passons. Et aussi, pourquoi j'ai voulu que ça soit le chant? Parce que la voix est universelle. Comme on chante avec plusieurs, on a plusieurs langues, en arabe, en français, en anglais, en latin, en allemand, ce qu'on veut. Je veux dire, il y a pas de différence. C'est la langue et c'est le son. Et donc, j'avais envie aussi de montrer que, entre guillemets, un art élitiste était accessible pour tous, mais qu'il fallait juste donner les bons outils, la bonne pédagogie.
Vous parlez de la pédagogie du faire, d'ailleurs.
Oui, hein? Parce que moi, je suis beaucoup dans, en fait, beaucoup dans d'abord ressentir et après le comportement et la pensée. Ça marche comme ça. Ouais. Si souvent, quand on est dans la pensée, on va se faire des films, on est dans le paraître. Que quand on est dans le ressenti et dans le faire, c'est le comportement. Alors à ce moment-là, l'esprit, la tête se libère et à ce moment-là, il y a la force de création qui arrive. Ça. Ça, pour moi, c'est très important.
Quelque part, vous reprenez aussi les ficelles du coaching, hein, de la réussite, mais pour tous.
J'ai même pas pensé à ça. Ouais. Non, ce que j'ai repris, c'est parce que j'ai fait de la thérapie, j'ai fait du développement personnel, j'ai travaillé beaucoup. Sur le corps, parce qu'à cause de mon accident, parce qu'il en est resté, donc il fallait quand même que je comprenne mes somatisations et mes blessures. Donc je me suis rendu compte que le corps disait beaucoup de choses. Il parle, il a des mots lui aussi. Et des fois, on ne peut pas nommer. Mais quand on le fait par le son, par le chant, par la musique, pour moi, c'est le son, c'est quelque chose qui se sculpte. Alors, ça libère.
Et il faut l'avoir. Hein. Moi, j'ai déjà vu répéter avec différentes femmes, là, en l'occurrence, qui sont souvent, parfois, des femmes un peu à la marge. Et là, se retrouver sur le devant de la scène, c'est toute une symbolique aussi.
Ben oui, parce qu'on a toutes sortes de femmes. On n'en parle peut-être pas assez, mais je peux avoir des femmes qui sont malades, qui ont le cancer, d'autres qui ont d'autres maladies, des femmes qui, par exemple, sont des femmes battues, je peux avoir des femmes qui ont fait des études supérieures et qui se mélangent aussi avec d'autres gens. On est quand même beaucoup dans le partage. Moi, j'ai gardé beaucoup ça. Il y a aussi des femmes qui ne savent pas lire et écrire. Il y a toutes sortes de femmes.
Et pour elles, se retrouver sur la scène avec des vrais artistes professionnels,
c'est un rêve.
À égalité, voilà.
J'oublie, mais il y a des hommes. On en a. Parce que comme je travaille sur Villeurbanne, ça c'est Lyon. Sur tous les projets que j'ai faits, c'est la première fois que j'ai au moins 10 hommes.
Ils sont bien contents de se retrouver minoritaires dans ce...
Non, parce qu'on se rend compte que faut pas oublier que en nous, on a le côté féminin et masculin, et les hommes, pas oublier, hein, féminin, c'est l'accueil, la sagesse, masculin, c'est entreprendre, c'est y aller, on a besoin des deux. On peut pas rejeter ce qu'on a en nous.
Quelque part, c'est un peu l'opérathérapie. Je sais pas si ce mot vous semble
Je sais pas. Non, ce que je pense, c'est que je donne peut-être la possibilité aux gens d'avoir des outils et de faire leur voyage intérieur. Si je faisais de la thérapie, je rentrais dans leurs histoires. Et ça, c'est pas mon métier.
Alors, rentrer dans les histoires des autres, c'est ce que fait un peu ce monsieur en face, Lancelot Hamelin. Franchement, quand avec votre bande d'artistes, bénévoles, chercheurs, voilà, vous baladez dans la rue, notamment dans les quartiers de Nanterre, en demandant aux gens, voilà, est-ce que vous avez eu un rêve ce soir, un rêve à partager? Ça doit être stupeur, parce que c'est super intime de partager un rêve avec un inconnu comme ça à lunettes qui se balade.
Oui, donc on n'a pas tous des lunettes. En groupe, hein, parce que donc si je m'intéresse à Nanterre, enfin si je fais ce projet à Nanterre, c'est aussi parce qu'il y a le théâtre Nanterre-Amandier qui a accepté, donc et son directeur Philippe Ken, qui ont accepté d'accueillir ce projet-là, qui n'a pas de production derrière, qui n'avait pas pour but principal de produire un livre ou un spectacle. Donc c'est un travail de recherche et il y a peu de théâtres qui sont en mesure de laisser cette possibilité-là. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai travaillé tout seul à arpenter, à chercher, et le projet a pris une dimension collective en 2015 quand j'ai rencontré un jeune metteur en scène qui s'appelle Duncan Evenou. Et donc là aujourd'hui, il y a une sorte de communauté qui s'est créée, qui s'est tissée, et effectivement, pendant les élections présidentielles entre janvier et mai,
à chaque fois de toute façon, vous choisissez des périodes électorales ou très politiques, parce que vous l'aviez fait aussi à la Nouvelle-Orléans.
Ça commence à la Nouvelle-Orléans, hein, aux États-Unis.
Durant la campagne américaine aussi.
En 2012, pendant la campagne d'Obama, où à New Orleans, il n'y a pas de campagne politique parce que c'est un safe state, c'est déjà joué. Et on s'est dit, comment documenter l'atmosphère politique? On va passer par le rêve. C'est inspiré d'un livre de Charlotte Berat, qui a recueilli des rêves entre 33 et 39 à Berlin, donc des rêves sous le nazisme. Et ce livre est un vrai livre d'histoire, mais qui passe par le témoignage sur le rêve. C'est une dame qui a compilé ses textes dans les années 60 dans l'environnement d'Anna Arendt. C'est un livre qui s'appelle Rêver sous le Troisième Reich. C'est absolument passionnant. Effectivement, mon projet, c'est de recueillir des rêves, des récits de rêves ou de cauchemars, des témoignages, des événements qui arrivent pendant la vie onirique, mis en relation avec notre époque et notamment avec ces moments, enfin avec ce qu'on peut appeler le politique. Et donc, pendant les élections présidentielles de l'an dernier, un dimanche par mois, à une vingtaine, on se lançait dans la ville de Nanterre par duo avec des micros et on posait cette question aux gens: as-tu rêvé cette nuit? As-tu rêvé un jour? C'est-à-dire, si c'est pas cette nuit,
Bien sûr, on est
un peu bloqué si on nous demande ça, c'est un rêve d'enfant, un rêve récurrent. Et les gens, ma statistique très subjective, c'est qu'une personne sur cinq est très contente. Il y a 4 personnes, il faut accepter qu'il n'ait pas envie, ou que ça l'angoisse, ou que ça l'énerve, ou que très gentiment, ils disent qu'il n'a pas envie. Et il y a une personne sur 5 qui est très contente de raconter ses rêves, soit parce qu'elle vient d'en faire un, elle ne sait pas quoi en faire, soit parce qu'elle adore ses rêves et qu'elle va toujours sur Internet voir ce que ça veut dire.
Mais vous avez créé le cercle des rêveurs, non, c'est ça?
Alors, tous les gens qui nous donnent qui nous confient un récit de rêve, on les fait rentrer dans une boucle, on prend le contact et ça fait un cercle des rêveurs.
Mais c'est une communauté réelle ou virtuelle? Ça sert à quoi, en fait?
Alors, régulière. Donc, je les tiens au courant du projet. Alors, on les tient au courant du projet qui maintenant est collectif. Ça s'appelle The Lighthouse, comme le phare ou la lumière légère ou la maison de la lumière. Et donc les rêveurs qui ont participé à la collecte, on les tient au courant et de temps en temps on les invite à soit, alors cette année on va faire des restitutions de ce corpus de récits de rêve, des sortes de lectures. C'est autour d'un format de radio, une forme de radio mobile qui va s'installer dans
radio
des endroits
Dream.
De Nanterre. Non, Lighthouse Radio.
Ah, toujours en anglais.
Toujours en anglais. Oui, parce que le phare, ça fait penser au phare de bagnole, alors que Lighthouse, c'est la maison de la lumière. Ouais. Et puis il y a une distanciation avec un mot étranger. Lighthouse, c'est aussi Virginia Woolf par rapport à à la place de la féminité dans le langage.
Vous y croyez, vous, Malika Bellerébi de Moile, aux anges gardiens comme ça, aux visiteurs de la nuit, à ces rêves qui en disent long aussi sur...
Souvent, ils sont, les rêves peuvent être une résolution de problèmes,
c'est prévu.
C'est souvent vu comme ça. Et puis, il peut être aussi un signalement de quelque chose qu'on n'a pas vu. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que l'inconscient, ça n'arrive pas par hasard. Puis je pense aussi que si les gens lui parlent, c'est parce que les gens ont aussi besoin de contact. C'est-à-dire qu'on soit pas...
Et qu'on s'intéresse à eux sur une matière.
Moi, si ça marche, parce que les gens sont dans le contact, ça veut dire dans l'authenticité. Si on est juste ce qu'il dit dans le forcing là, pour les utiliser, ils n'aiment pas. Mais si on est vraiment là pour les entendre et les accueillir, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on se reconnaît en tant qu'humain.
Mais moi, ce qui m'a stupéfié l'an dernier quand on a fait ce travail, c'est que les gens sont très attentifs à l'autre, c'est-à-dire à nous qui venons leur mettre un peu des bâtons dans les roues. Et souvent, ils nous confient des rêves très, très, très profonds, souvent des rêves de deuil, de gens morts qui reviennent, ou des rêves d'inquiétude pour les enfants ou les proches, ou des rêves aussi dans le contexte politique l'an dernier, donc entre les élections, entre les affaires comme l'affaire Théo. Il y a eu des mois où on a eu des retours, une grande souffrance qui s'exprimait. et des témoignages, notamment à Nanterre, sur le racisme. Mmh. Un monsieur qui rêvait de son patron, que son patron continuait de venir le traiter de sale arabe.
Dans ses rêves.
Dans ses rêves. Ouais. Et puis un autre monsieur qui... donc après, on l'a revu, ce monsieur, parce que lui, il rêvait qu'il était un saumon qui remontait la rivière, et il se rendait compte au bout d'un moment qu'il était un des cadavres du 17 octobre 61.
Oula, oui.
On l'a recontacté parce que son rêve de saumon était puissant. Un saumon avec un t-shirt. Donc il n'avait pas froid parce qu'il avait un t-shirt. Et Mohamed Melki est quelqu'un qui, s'il rêve, c'est parce qu'il agit. C'est-à-dire que ce monsieur a fait reconnaître par la ville de Nanterre. Maintenant, il y a un boulevard du 17 octobre à Nanterre.
Ouais.
Et il a travaillé au corps la ville d'une façon militante. Et du coup, cette action dans le quotidien est... Alors, se traduit par les rêves, c'est la vision conventionnelle, mais peut-être est nourri par les rêves qu'il fait. Comme Luther King, c'est probable qu'il ait vraiment rêvé de ses enfants et d'une égalité, qu'il ait vraiment... Voilà où on en est, on dit vraiment rêver. Comme si
c'est ça. Un rêve à partager, Malika, là, tout de suite, là, maintenant.
Bah, c'est intéressant, quand il dit ça, ça me fait penser... je sais pas si c'est un rêve partagé, mais ce que m'avait dit ma mère pendant la guerre d'Algérie, et elle a dit que Nanterre avait été une bonne ville pour les Maghrébins parce que les politiques avaient su accueillir les Algériens. Et je sais que mon père avait à l'époque, avec l'ancien maire, il avait récupéré tous les wagons de la SNCF et les Algériens qui étaient venus de France dans les années 52 avaient habité dans ces wagons.
Ah oui.
Donc il y a toute une histoire. Donc je pense au rêve de ce qu'il dit de cet homme qui s'est battu pour la ville. Donc c'est voilà.
Et oui, les fantômes du passé dans les.
C'est une ville puissante, Nanterre. Ça vient d'un mot celte qui est le Nemetot. Nemetot qui a donné Nemetodorum, qui veut dire en celte le lieu sacré.
C'est incroyable. Et moi, je disais Nanterre naissance. En plus, moi, j'étais très contente.
Nanterre naissance ?
Pour moi, Nanterre naissance.
Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Chacun y met...
Tu sais pourquoi ? Parce que je me suis dit que, pour moi, qui avait eu mon accident, tout ce qui s'était passé, et cette ville, elle a accueilli. Et pour moi, elle a laissé de la place aux gens.
Et elle a accueilli l'université, d'où est partie mai 68.
Exactement.
Avec ce slogan, Nanterre, pas tes rêves.
C'est ça. Nanterre, pas tes rêves.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Avec Malika Bellary-Billemoile, la cantatrice, la diva des cités, et Lancelot Hamelin, auteur, dramaturge et recueilleur de rêves. Il est bientôt minuit et c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, je demande à mes invités de fermer les yeux. Je vous mets dans votre noir intérieur. Le micro est juste en face de votre bouche. On dit souvent... Ça va là ? Vous vous sentez bien, Lancelot ? On ne triche pas. On dit souvent que l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, aujourd'hui, ici, maintenant, Malika ?
Le mot qui me vient, c'est l'humanité, l'humain.
Lancelot, Hamelin ?
Moi, je dirais, je reprendrai les mots de la militante Starhawk qui dit « rêver l'obscur ». En parlant de politique.
C'est un cauchemar, alors ?
Non, l'obscur, c'est pas les ténèbres.
C'est ça. Alors, la nuit, c'est vrai, on se fait tous des films noirs, bizarres, surréalistes, on en a entendu quelques-uns. On s'imagine poursuivi dans une forêt par une horde d'animaux sauvages à deux têtes. D'ailleurs, l'une des deux ressemble à la belle-mère, non ? Vous trouvez pas ? Malheureusement, on a un flingue et Clint Eastwood n'est pas loin. La nuit, on imagine son propre enterrement. On voit tous ces faux pleureurs, ces faux culs. Il y a tous nos ex, il y a une foule d'ex. Et on se dit quand même qu'on aurait bien pris un peu de rap de vie quand même. La nuit, on s'imagine ailleurs, forcément meilleur, sur le Titanic, pourquoi pas. Sauf qu'on change la fin, on y met un vrai happy end. Et vous, vos scénarios nocturnes à vous, franchement, Lancelot Hamelin, vous n'avez pas à y couper. Vous qui passez votre temps à demander aux autres leurs rêves à partager, il y a un scénario récurrent chez vous. Rêve ou cauchemar, d'ailleurs.
Oui, moi je retourne dans une maison où j'habitais quand j'étais enfant. C'est pas un cauchemar, ça me laisse intranquille.
Elle ressemble à quoi, cette maison ?
Elle est plus grande qu'elle l'était en réalité, et c'est ces rêves où on passe de couloir en couloir, qu'on ouvre des portes, et parfois les portes ouvrent sur des forêts. Un mélange comme ça entre la maison et la forêt.
Labyrinthe et tout et tout. On demandera à Toby Nathan, notre ami rêveur.
D'analyser ça.
Exactement. Dans vos rêves les plus fous, Malika Bellaribi Lemoyle, là, si vous aviez le pouvoir là de partager une scène d'opéra avec une diva d'une autre époque, ce serait qui?
À une autre époque?
Ouais. Les yeux fermés, je sais que c'est pas évident de. Vous êtes très collé au micro là.
Alors moi, je dirais, si j'étais à une autre époque, je restais avec mes rêves d'enfant. J'aurais joué l'opéra de Cendrillon, et j'aurais peut-être mis un peu des Misérables. Je sais pas pourquoi. J'aurais mélangé, et je me serais dit que tous les méchants ils s'en vont et la bonté reste. Je suis très fleur bleue là.
C'est bien. C'est pas Carmen, mais c'est pas mal. Dans vos rêves les plus fous, toujours les yeux fermés dans ce Hamelin, vous avez le pouvoir de retrouver ce jeune homme là justement qui regardait le monde des adultes, qui regardait le réel pour le fictionner, peut-être du côté derrière le comptoir du bistrot de ses parents. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune homme avec du recul aujourd'hui?
De faire pire.
Faire pire?
Ouais.
Ah, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire?
Bah c'est plus drôle de se rapprocher encore plus du bord.
Ouais, c'est-à-dire?
C'est-à-dire de d'avoir confiance dans le fait que on peut exagérer plus et on peut aller plus vite et on peut sauter des étapes et qu'on n'est pas si pressé.
Vous vous trouviez trop sage?
Non. Ou trop embarrassé peut-être de crainte peut-être, oui.
Fais pire, c'est pas mal.
Faire pire.
Malika, vous pouvez la croiser, cette jeune gamine aux sandales blanches qui retrouvait sa voix, ses jambes dans cet hôpital-là, avec du recul. Qu'est-ce que vous lui dites à la petite Malika?
Ce qui, avec du recul, je me serais dit l'espoir. Rien n'est noir. Je suis pas toute seule.
C'est ce que vous lui diriez aujourd'hui, alors?
Oui.
Allez, vous pouvez réouvrir vos yeux. Ça va?
Ouais, ça bouge. Hein.
Ça bouge dans la tête. Hein.
Ouais.
Quand on a les yeux fermés, ça bouge plus. Merci beaucoup en tout cas pour ce joli voyage intérieur et d'avoir joué le jeu de vous raconter à travers l'autre. Pour continuer de rêver, je rappelle donc que Lancelot Hamelin, vous serez au Festival Monde dimanche prochain à 11h30 à l'Opéra Bastille pour une rencontre publique. Et Malika Bellaribi Lemoyle, vous jouerez le Barbier de Séville, c'est ça, le 6 octobre prochain.
Au CCO à Villeurbanne.
Avec toutes les femmes de différents quartiers aussi.
De différents quartiers, de différentes villes, de Bondy, Créteil, Paris et Villeurbanne. Et avec les solistes et les professionnels. Et puis le 14 octobre, au musée d'art et d'histoire, à la chapelle de Saint-Denis.
Voilà, on mettra toutes ces infos sur notre site à nous. Merci beaucoup, belle route.
Merci.
Beau rêve. Nous retrouverons une nouvelle rêve partie avec le réalisateur Tony Gatliff et l'écrivain voyageur Christophe Cousin. D'ici là, bien sûr, osez rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.